Bonjour et bienvenue, chers auditeurices. Nous sommes heureuses de vous retrouver autour du lavoir, entre l'eau sale, les piles de linge à rattraper et les débris d'actualité. Un retour aux airs un peu post-apocalyptique depuis la dernière émission. Prenons au hasard le retour du président sortant, sans bilan, sans débat et sans transition. Les agresseurs sexistes, répresseurs du gouvernement, reconduits à la barre dans le plus grand des calmes, comme nous retournons à nos micros. Petit placement astro-météo en deux mots. Depuis 3 jours, nous sommes entrés dans l'ère du Gémeaux qui nous apporte enfin la pluie. Aujourd'hui, nous recevons 2 invités, Manon Alla et Al Bailak. Bienvenue à vous deux.
Merci.
Merci.
On est donc ravis de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes comme nous, anciens, anciennes du master création littéraire. Et on est d'autant plus heureuse de vous recevoir pour cette émission autour de vos créations. Émission qu'on a dû reporter une fois, deux fois. Et cette fois-ci, on est là.
Manon Alla, tu viens nous parler de ta nouvelle revue poétique intitulée La reprise de l'amour, numéro 0, dont nous allons parler dans un instant. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur le lancement de la revue qui avait eu lieu en avril à La Gougnotte, qui a été franchement un franc succès. Si nous devions te présenter, nous, avec nos mots, nous dirions que tu es une artiste féministe, engagée, et que tu te passionnes pour plusieurs domaines artistiques. Et toi, comment voudrais-tu te présenter? Comment te décrirais-tu à nos auditorices?
Comme quelqu'un qui travaille en arborescence, avec, j'ai l'impression, l'écriture et le poids des mots au centre et comment ça vient en fait se répercuter et venir tisser autour. Et ça peut prendre plusieurs formes et je crois que le centre, c'est la poésie.
D'accord, merci. Et donc Al, je me tourne vers toi. On te rencontre aujourd'hui pour que tu nous parles de ton livre « Colza ». Paru aux éditions Blast. Donc, première requête, nous aimerions aussi que tu poses tes propres mots sur toi et que tu te présentes.
Très bien. Je pense que je mettrai aussi l'écriture au centre de ma pratique. Après, il y a un vrai désir aussi de sortir la poésie et l'écriture du format papier. Donc, tout ce qui est pratique orale, scénique, performance, ça me tient pas mal au cœur. Puis d'autres formes d'expression. Ben, récemment, on a eu l'occasion aussi de mettre de la poésie dans un musée. Pour moi, ça a posé plein de questions plastiques de comment, encore une fois, on l'a fait sortir du livre, mais on va l'encadrer, on va quand même la cadrer autrement. Et donc ça a soulevé, en tout cas, ça me plaît, tous ces enjeux-là. Et voilà, je pense que c'est comment je me définirais. Et puis pour me situer plus politiquement, je dirais que je suis une personne du coup butch, féministe aussi, avec un féminisme intersectionnel. Ouais.
Ouais, nickel, merci. On va commencer par toi, Manon. Pour parler de ta revue, enfin, on va commencer par évoquer la soirée de lancement. Donc au bar La Gougnotte, c'est le premier bar queer, je crois, à Toulouse. Il me semble que c'était le premier, ça avait été pas mal dit à l'ouverture.
Ouais, qui a ouvert cette année, hein, c'est ça?
Oui, voilà, ouais. qui se trouve à février. Ouais. Donc un endroit safe. Enfin, moi, c'est ce que j'ai senti quand j'y suis allée, ce qui est assez rare que je me sente comme ça dans un bar. Et je trouve que, en tout cas pour cette soirée-là, il y avait vraiment... vous avez réussi à mélanger, je trouve, le monde très empirique, ordinaire, avec le monde poétique, qui ne sont pas séparés, en fait. Et avec une poésie beaucoup plus vivante qui circule. Et donc, est-ce que tu aurais envie de nous lire des petits extraits?
Oui, tout à fait.
Merci.
Je commence par... Donc là, c'est le numéro 0. Je me parle, dans l'entremise du sommeil, accidenté par ta parturition effrénée. Des images de torches, dans ma poche d'ombres internes. Et je frôle la mort, avec le panache des vivants. Élucubration à la chandelle de ton con, évasé comme une patte d'éléphant. Tu as continué de jouir à retardement des semaines plus tard, comme le tonnerre après la foudre. seule la baise enfante. Le langage est une insulte de seconde main. Je ne te prêterai plus une ligne d'explication. Cette langue morte, cette langue inféconde, cette obscurité sans coït. Crève-toi les yeux, puis cherche par quel trou de serrure la lumière tamise ta vie. Et le deuxième texte de la revue. Quand la neige est bleue, s'aimer comme on se quitte, mal. Elle me tendait sa main et me disait on fait la paix. J'ai agacé le feu. Il y a plein de bruit dans le feu. Il y a des voitures, il y a des rats. J'ai passé du temps à réorganiser le feu, faire que les bûches tiennent. Je me suis occupée du feu. Toute la nuit, j'étais près de lui. J'ai mis les pieds dedans aussi, pour l'équilibre. Les fleurs de lys sont noires depuis un bail. L'œil laser bleu et l'autre rouge. Je fais des rosaces dans la neige avec les brins d'herbe qui dépassent. Il découpe la neige. Et un chien hurle. Cette nuit s'est posée encore 10 cm. Sur le trépied, ma culotte fume. Je jette mes cheveux au feu. Mon doigt a bleui un soir de ne plus rien masturber. Mon sexe a suinté. Mon sexe a goûté. Mon sexe a coulé, mon sexe a débordé dans ma culotte. Acheter de la terre de diatomée pour la prochaine manif étant lancée.
Ah, merci. Ça fait plaisir de réentendre ces textes. Je les avais entendus, il me semble, à la soirée d'ouverture à la Gougnotte.
Oui, l'un des deux, oui.
Eh bien, pour aborder un petit peu la genèse de ce projet... est-ce que l'idée de cette revue venait-elle répondre à une nécessité vraiment en particulier pour toi ? Et en fait, on aimerait beaucoup entendre ce qui a nourri ce projet. Est-ce que peut-être il prend naissance dans la revendication ? Ou est-ce qu'il vient faire... est-ce que c'est une réponse à un manque que tu as ressenti ?
La toute première intention, non. Je dirais que ça vient après. C'est venu dans une conversation avec Al où on parlait de l'amour et l'une de nous a dit la reprise de l'amour, ça ferait un joli titre de revue. Et moi je suis assez attachée à ces titres dans ma pratique artistique. Souvent j'ai les titres qui viennent et après il y a les choses qui sont poussées ou abandonnées, mais voilà, le titre vient comme un espèce de marqueur. Et là, j'avais besoin de le rendre réel, en fait, cette idée de projet. On en avait parlé après de la faire, cette revue, puis le Covid, puis voilà, la vie. Et en fait, j'avais envie de concrétiser. Donc, en fait, pour moi, c'est... c'est un acte d'amour, c'est un espace, c'est une possibilité de faire voyager la poésie, et puis aussi de la rendre très, très tangible, en fait, du fait de son format postal. La poésie voyage et arrive dans les boîtes aux lettres. Donc, je me suis perdue un peu, même.
Mais c'était justement une question qu'on avait envie de te poser. Donc, je rebondis sur une question prochaine. Comment tu avais justement pensé la forme et bah, dans quel souci cette revue, elle a été créée dans un format postal et si tu avais envie de nous en dire plus sur ce format, justement.
J'aime beaucoup les choses qui se plient et qui se déplient. Et qu'on peut faire soi-même comme ça, avec pas grand-chose. C'est une feuille de papier, la forme de l'enveloppe aplatie permet de faire un pliage pour coller les bords et rendre le format enveloppe avec un espace pour l'adresse, une contre-signature, où en fait il y a les noms des artistes et des auteurices. Voilà, quelque chose d'assez simple, qu'on puisse plier et déplier, et où le texte se situe sur le papier même qui sert à écrire l'adresse.
Sur l'enveloppe.
Sur l'enveloppe même. Et au début, en fait, c'était cette idée de que la personne qui reçoit cette revue ou qui l'achète, elle ait une action à faire. Quelque chose à décacheter, et qu'elle le fasse ou pas d'ailleurs, justement, que ça soit sa décision de pouvoir l'ouvrir, déchirer, décacheter ou décoller délicatement avec de la vapeur d'eau pour lire les textes. Enfin, peu importe, mais du coup, qu'il y ait une action. J'ai envie que cette revue soit une revue de poésie contemporaine, de jeunes poésie contemporaine, des textes qu'on n'entend pas, des textes qui émergent, et bon, il en existe plein des revues, mais voilà, quelque chose de rare un peu. Elles sont numérotées, il y en a 200, et il n'y a que deux textes qui se font face, et j'aime particulièrement lire de la poésie, moi, quand il n'y a pas beaucoup de... quand la page, elle n'est pas saturée. Voilà. Et voilà, et c'était pour reprendre aussi le pli postal, qui était une façon de s'écrire des lettres. Et avec le papier de la lettre, hop, 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 on plie. Et on envoie sur ce même papier, enfin l'adresse, on écrit l'adresse sur ce même papier. Voilà, et puis aussi les livres, avant ils étaient imprimés d'une certaine manière, où quand ils avaient été, pour les lire, il fallait découper la page en haut pour pouvoir accéder à l'écriture. Et j'aime bien cette idée.
Ouais, mais moi j'ai beaucoup aimé l'objet, justement, c'est que tu disais que la personne qui la reçoit n'est pas obligée de l'ouvrir. Mm-hmm. C'est vrai que moi c'est un bel objet que j'ai gardé comme décoration sur ma table de chevet pendant plusieurs mois. Mm-hmm. Donc il y a l'aspect esthétique qui est vraiment essentiel aussi, quoi. Et on voulait te demander aussi pourquoi ce titre, mais tu nous as déjà répondu. Donc ça a été un titre créé en binôme, c'est ça? Enfin,
pas vraiment, je pense que c'était Manon, ça devait faire partie d'un de tes poèmes. Et c'est juste que j'ai tiqué, non, il n'y avait pas un truc comme ça, j'ai tiqué, je me suis dit, ah, la reprise de l'amour, c'est trop stylé comme... Non,
je pense que c'était comme aussi on poétisait à voix haute et que t'as chopé ça au vol en disant que ça pourrait être un super titre.
Voilà, moi aussi, je kiffe les titres. Je trouve aussi les titres avant.
Ouais, après, il faut faire un roman derrière. Si tu trouves un titre de roman, il y a un roman à faire.
Enfin, c'est pas évident.
C'est pas évident, ouais. Mais ouais, nous, on est parti un peu loin, du coup, par rapport à l'idée de ce titre. Et c'est notre Manon, qu'on salue en régie, qui voulait savoir, parce qu'on sait que tu couds, tu as une pratique de couture, et on se demandait s'il y avait un lien avec repriser la couture. Voilà, est-ce qu'on a été trop loin?
Non, c'est intéressant de voir les liens qui peuvent se faire, et comme... j'ai de plus en plus conscience que mon rapport à l'art vient questionner le rapport entre les gens, les liens, et vouloir quand même réunir ou assembler. Voilà.
Oui, c'est peut-être inconscient, mais...
Ouais, reprise, c'est reprendre et c'est reproposer quelque chose qui repart. Donc c'est...
Oui, c'est repriser aussi, c'est les liens du care, du soin, réparer...
Ouais.
Recycler.
Ouais, et réunir, quoi, aussi. Quelque chose qui a déjà été uni, mais c'est repartir à zéro. Ouais. J'avais noté des choses. Autrement, mais...
Ben, en tout cas, bonne idée de titre, et heureusement, vous avez été jusqu'au bout, et on a eu droit...
Enfin, Manon a été jusqu'au bout.
Manon, tu as été jusqu'au bout, et on a eu droit au numéro 0. Et peut-être bientôt au numéro 1.
Tout à fait, qui est en préparation. Il est chez l'imprimeur là en ce moment même, chez Poppy Press à Saint-Cyprien, et du coup c'est Louis qui s'occupe de monter le texte avec les caractères en plomb, donc il monte tout le texte à l'envers dans une police Garamond, si je me souviens bien, et une fois que le texte est monté, après il est mis sur une plaque en métal enduit d'encre. Il passe dans la presse typographique.
D'accord. On avait justement une question sur le travail avec l'imprimeur. Et est-ce que tu avais déjà travaillé avec une presse?
Non. Et puis, j'ai pas... Moi, j'ai juste regardé comment ça se passait, mais j'y ai peu mis les mains.
Bah...
du coup.
Ouais, ben on avait envie de continuer à te poser une question qui est liée à la poésie et ton travail de plasticienne. On se demandait si ton parcours de plasticienne il venait en soutien. Tu nous as déjà un peu répondu en parlant que tu pars de la poésie et tu veux donner une forme qui part du texte vraiment. Et on voulait savoir si ton parcours de plasticienne c'était un soutien dans ton écriture et comment se passe l'acte de création. Est-ce que pour toi c'est le fruit d'une urgence ou à l'inverse, est-ce que les mots germent longtemps et que c'est un long travail pour aller allier les deux, les mots et la matière et...
Quand je disais que je partais de la poésie, ça peut être aussi un instant, un souvenir, une lumière. C'est pas toujours nécessairement des mots, beaucoup, mais ça peut être aussi autre chose qui va après donner des mots. Du coup, voilà, donc ça peut être des urgences, en rapport à l'écriture, oui, il y a des urgences, et il y a aussi beaucoup de temps de gestation, et après ça sort. Je suis pas quelqu'un qui va aller gratter, et après relire. Ça va plutôt... S'il y a réécriture au moment de l'écriture, ça va être des slashes avec des possibilités d'autres mots. Mais les mots, ils sont comme déjà vachement structurés. En fait, c'est comme si je faisais déjà une architecture dans ma tête. Et après, ça sort. Je perds beaucoup de mots, du coup, vu que je mets plein de temps à écrire. Mais bon, ouais. Au moins, quand ils sortent, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus denses et qu'il y en a plein dedans, dans un mot. Et pour la complexité ou ce que tu disais de est-ce que c'est compliqué de lier la matière avec les mots, c'est ça? Dans le côté plastique, ben pour moi en fait les mots me sont apparus au moment où j'étais au Beaux-Arts comme une matière plastique à venir modeler. Et là du coup ça m'a ouvert tout un champ en me disant en fait, c'est pas seulement des textes que j'écris par rapport à mes vidéos, par rapport à mon rapport à la matière, à la peinture, mais en fait, c'est une matière à part entière. Voilà, et les choses se font de façon assez instinctive quand ça doit se mêler. En fait, il y a certains poèmes où j'ai l'impression qu'ils ont comme des impatiences, et ils sont impatients sur la page et ils ont besoin de sortir, comme tu disais tout à l'heure, Al, ce rapport à de sortir en fait de la page en fait et leur donner corps, leur donner différents espaces. Et ils résonnent tout à fait autrement dans les espaces d'exposition. Ils résonnent différemment que quand on fait des lectures et encore ça dépend aussi où on fait les lectures et devant qui. Voilà. Et c'est drôle parce que le mot impatience, c'est aussi une plante, une fleur qui s'appelle l'impatience. Et c'est aussi, quand on a des problèmes de circulation, avoir des impatiences dans les jambes, c'est quand ouais, on a les jambes lourdes.
Ouais, quand on est fatigué souvent, on a ça, non ?
Voilà,
du coup, ouais. Merci beaucoup. On va peut-être se faire une petite pause musicale avant de reprendre.
Merci.
Juste un l'heure, que les minutes sont plus longues quand on regarde l'heure. Alors je te regarde, toi tu rougis. Une tempête souffle tes bougies d'anniversaire. Tu dis que c'est juste un courant d'air. T'es juste au courant de air. Tu dis que je suis juste un courant d'air. T'es juste au courant de air. Tu dis que c'est juste un leurre. Que les minutes sont plus longues quand on regarde l'heure. Alors je te regarde,
toi tu rougis. Une tempête souffle tes bougies d'anniversaire. Tu dis que c'est juste un courant d'air. T'es juste au courant de air. Tu dis que je suis juste un courant d'air. T'es juste au courant de air. Tu dis que c'est juste un leurre. Que les minutes sont plus longues quand on regarde l'heure. Alors je te regarde, toi tu rougis. Tempête souffle tes bougies d'anniversaire. Tu dis que c'est juste un courant d'air. T'es juste au courant de air. Tu dis que je suis juste un courant d'air. T'es juste au courant de air.
Reprend l'émission Les Lessiveuses avec Manon Alla qui vient nous parler de la reprise de l'amour, sa nouvelle revue Poético-Postale. Et on va peut-être enchaîner avec une petite lecture pour se faire plaisir du deuxième numéro, c'est ça ?
C'est ça. Du coup, ça va être le numéro 1 puisque c'était le numéro 0, ouais. Juste avant. Donc c'est en avant-première, le numéro sortira en septembre.
Et...
Un texte de Miel Pagès. La réponse à ma vie se trouve être dans la bouche de quelqu'un qui, parce qu'il a la bouche remplie, ne peut pas me la dire. J'attends toujours qu'une porte se coince. J'attends toujours qu'un oiseau perde un cil au-dessus de ma tête. J'attends toujours que l'on cogne ce qui bat déjà. J'attends encore l'arrivée d'un bijou sur le ventre d'une araignée. Et tu recoiffes mes cheveux. Et tu en mêles tes mots. Tu dis, voilà, c'est cadeau. Mon plexus illuminé de lune, réseau indéchiffrable de nœuds. Et je déplace des cailloux. Et j'arrose les orages. Je dis, voilà, c'est drama. J'ai du feu à la place de la langue. Désir innombrable de nerfs. Et la peau repart vers la mer. Et nos coquillages ébréchés. Nous n'avons rien compris. Voilà pour le premier. Et un texte de Val. Je les ai jamais lus avant, du coup ça me fait tout drôle. Par volée, lèvres de brume, lèvres de brume. La lente levée des visages vers ce rien de vous. Accable et brûle, ce rien. Je dis brûle, accable, et calmera tout le pourpre de mon cœur. Goulée, pleine, les algues effleurent les peaux, et la remontée de tout corps. Mains gelées sur la berge, gouttes cristallisées en un fruit hématome. Désœuvrée, je mâche l'encre comme un bonbon, trempe l'échappée continue de ta bouche neigeuse. Un ennui long vibrato, le ver des pins, balancé, croqué, du ciel blanc à la coupe. Cisaille l'abreuvoir de ce rien de vous.
Merci pour ces lectures. On a vu que au dos de l'enveloppe de la reprise de l'amour, tu dis que tu viens de la Lozère. Et du coup, on avait une question par rapport à ça. Est-ce que tu dirais que le rapport au territoire est un peu déterminant dans ton écriture et que ça a façonné ton imaginaire ou ton langage?
Mon langage, oui. Ça surgit à des moments un peu improbables où, quand j'ai envie de parler des oreilles, je dis esgourde et que je me rappelle pas que... Enfin, que ouais, ça arrive comme ça parce que c'est le mot vraiment que je voulais dire. Et oui, en fait, c'est un département qui est très peu peuplé et qui... Ben oui, j'ai grandi là-bas et sans avoir peut-être beaucoup de... le choc a été fort quand je suis arrivée à la ville, en fait, et que le monde était différent ailleurs. Le rapport aux gens, aux promiscuités, à habiter dans des appartements où on entend tout ce que les autres font alors qu'on ne les connaît pas. Et à se dire bonjour dans la cage d'escalier et pas plus. Ouais, c'était compliqué. Je cherchais dans tous les visages des gens que je croisais dans la rue un visage que je reconnaîtrais, et ça n'arrivait jamais. ouais, voilà. Et puis tout d'un coup, la nature qui disparaît, où il y a juste un arbre devant sa fenêtre et que tu vois passer les saisons comme ça. Ouais, un déracinement et en même temps un besoin très fort de partir, une nécessité. Ouais, puis l'écriture, enfin, à ce moment-là, c'était pas du tout une ressource. Je pense que dans ma tête... Je devais écrire, mais j'écrivais rien sur le papier.
Mmh. Elle est arrivée à la ville, donc ton envie d'écrire... Enfin, pas ton envie d'écrire, mais l'acte d'écrire.
Ouais. Je sais pas.
Ouais.
Je crois que j'écrivais des lettres d'amour. J'ai d'abord écrit des lettres d'amour et de rupture, et puis...
Je sais pas, je réponds pas vraiment aux questions.
Et puis une revue qui est une lettre d'amour et de rupture,
ouais, voilà,
à la fois.
C'est ça, ouais. L'amour.
Ben, merci beaucoup. On avait envie de faire un dernier petit point sur la soirée à la Gougnotte avec vous deux. Et ben, nous, on a adoré cette soirée. Et on se demandait un peu comment vous aviez pensé le déroulement de cette soirée d'ouverture, parce qu'il y a eu pas mal, il y a eu plusieurs événements, un speed dating notamment. Et voilà, comment ça s'est passé pour vous déjà, si c'était une bonne soirée, et qu'est-ce que vous aviez envie de créer pour ce moment, est-ce que vous sentez que vous avez réussi à le créer?
Ouais, moi sur le speed dating poétique, je voulais y revenir parce que à un moment donné sur Toulouse, ils avaient lancé à l'eau bohème des soirées lesbiennes. Ça n'a pas du tout accroché parce qu'il y avait très peu de com, personne n'était au courant qu'il y avait ça qui existait. Et puis sur les soirées, ils faisaient pas non plus de mixité choisie, ce qui fait que en fait c'était blindé de mecs 6-7 qui venaient là comme d'habitude et qui savaient pas qu'il y avait ça. Et donc, mais je trouvais le principe super. Il y avait des ventes de sextoys, il y avait des DJ sets, puisqu'il y a une scène à l'eau bohème. Il y avait des petits fours et tout, et je m'étais dit j'aimerais trop relancer ces soirées, et je m'étais dit le truc un peu attractif c'est le côté speed dating, et je voulais pas faire un speed dating classique, je me disais un speed dating poétique ce serait stylé. Et puis on m'avait renvoyé ce truc de ça ferait peut-être un peu classiste si tu fais une soirée censée être ouverte ouvert à tous et qu'en fait il y a ce côté un peu littéraire dans... Et donc quand Manon m'a dit qu'elle voulait faire une soirée aussi pour la reprise de l'amour, je me suis dit bon ben là on peut plus, l'argument classiste il tient pas, de toute façon c'est une soirée littéraire, c'est une soirée poétique. Et en tout cas moi j'étais trop chaud de mettre en place ce format et speed dating, et je pense qu'on avait envie aussi qu'il y ait plusieurs propositions effectivement tout au long de la soirée, un peu pour tous les goûts, plusieurs dynamiques. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre?
Ouais, c'est ça, découper la soirée en plusieurs voilà, commencer par en fait voilà, faire du lien aussi, c'est-à-dire que on est arrivé avec plein de propositions de textes qu'on avait sélectionnés, les gens les avaient à disposition et les prenaient et les lisaient aux personnes en face de qui ils s'asseyaient. Donc ça a créé déjà une émulsion chouette. Et puis après il y avait aussi un espace où les gens qui écrivent pouvaient dire leur texte. Voilà, rendre la poésie un peu plus tranquille, un peu plus quotidienne. Et puis déjà, comme il y avait un petit rapport de confiance de cette des lectures mutuelles, je pense qu'il y avait quelque chose qui s'est bien installé.
Ouais. Et ça a vraiment créé la rencontre, ce moment-là.
Oui, le côté peut-être accessible aussi, qui enlève pas mal d'enjeux, qui est souvent une scène ouverte, il faut quand même monter sur scène, prendre le micro, t'es face à plusieurs personnes qui te regardent. Là, le côté intime d'être face à face, et puis du fait que t'es pris dans un flow à côté de ton lit aussi, je pense que ça permet de désamorcer beaucoup l'angoisse d'offrir un texte à entendre, quoi.
C'est ça, et puis en fait, on n'était pas focalisé sur une personne, tout le speed dating, il y avait ce truc où elle avait le chrono, et toutes les 5 minutes, ça changeait de personne, donc... Donc c'était chouette à voir aussi.
Ouais, c'était chouette à voir.
Les gens se poussaient.
Hyper dynamique. Ah mais oui, mais il y avait de la queue jusqu'au fond du bar, quoi. Enfin, devant le bar. Ouais. Nous, une petite réflexion qu'on s'est faite, c'était que ça créait presque une œuvre en soi, ce format, cette espèce de brouhaha ambiant où il y avait des mots qui, on entendait des mots qui germaient de ci et là et en fait qui fusionnaient ensemble et qui formaient une histoire ensemble, et on se disait que c'était une belle, c'était presque une performance tous ensemble, et c'était beau, quoi.
Ouais, c'était hyper intéressant parce que, bon, moi je suis ultra timide, donc j'ai regardé de loin, mais je me suis rapprochée quand même, enfin j'ai été un peu poussée par le, bon c'est quand même pas très grand la Gounia, donc il y a un moment forcément on se retrouve un peu devant, et je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait un brouhaha, et en même temps les gens, à cause du bruit, se chuchotaient les mots, et du coup je me demandais... Enfin, j'ai eu cette réflexion, moi, je me disais, c'est marrant comment j'entends des bribes de mots et en même temps ça se perd dans le... Enfin, j'avais une petite expérience perso. c'était chouette à voir et c'était chouette à entendre aussi.
Et se pencher, les gens se... Et donc ça crée d'autant plus aussi ce contact intime. Les gens se penchaient vraiment pour pouvoir... C'est question que ma voix t'atteigne, donc...
Ouais, on se susurrait à l'oreille des poèmes. Oui, il n'y a pas le choix.
Ouais, mais du coup, je trouve que c'était réussi de créer cet espace à la fois intime et qui désacralise la poésie, qui n'est pas élitiste, en fait.
Oui, en plus, je pense que c'était complètement le but, et je crois que ça a été aussi un succès dans ce sens-là. Mais et puis avec le collectif Rose Virgule, du coup on est un peu ce collectif informel, on est plusieurs à graviter autour, et il y a vraiment cette idée de l'avoir créé dans le but de désinstitutionnaliser la poésie et aussi de la rendre, c'est ça, sexy, pop, attrayante, un peu tout ce qu'on met pas derrière poésie. Si je te dis poésie, tu penses voilà, à un truc plutôt un vieux jeu et...
Ouais, un vieux Baudelaire, on n'a pas envie de faire de speed dating avec Baudelaire, tu vois. Bah, merci beaucoup. Merci. On se refait une petite pause musicale avant de discuter avec Al, qui est ici présent, de Colza.
Juste, je peux rajouter une petite info.
Oui.
De dernière minute, j'ai été contactée par Empower. C'est une association parisienne qui soutient et accompagne les femmes dans leurs dans ce qu'elles entreprennent. Et du coup, je suis invitée à Paris pour présenter la revue dans un book club avec deux autres poétesses. Une poétesse qui s'appelle Kiemis et Nawel Benkrayem. Voilà, donc oui, c'est la semaine prochaine, le 1er juin.
D'accord. Mm-hmm.
Yes.
Ici, à Toulouse ?
Non, à Paris.
À Paris. Ouais. À Paris. J'ai mal écouté.
Non, t'inquiète.
Voilà. Bah ouais. Non, mais c'est important de le dire, sinon on mettra cette information dans le post Instagram, comme ça on peut retrouver
avec
facilement.
Plaisir.
Ouais, mm-hmm. Ouais, on va faire ça.
Je suis très contente.
Alors, de retour dans l'émission Les Lessiveuses, où je me tourne vers toi, Al, pour parler de colza. Alors, je vais faire une présentation de ce livre, mais n'hésite pas à me corriger, à compléter, vraiment aucun problème. Alors, donc, colza, c'est une autofiction, on peut le dire, qui est écrite à la première personne, où les lectrices vont suivre l'évolution du personnage de colza et de son parcours identitaire et sexuel, mais aussi féministe et politique. Et donc, sans vouloir tout révéler, on peut parler de sa forme originale, parce qu'il y a ce que j'appelle le récit de trajectoire, qui est assez empirique au final, même s'il y a de la lyricité partout, mais et qui est dynamique, et ce récit-là est entrecoupé, complété et propulsé par des mythes, qui sont des passages plus courts, poétiques, comiques aussi, on peut le dire, je pense, qui forment la constellation amoureuse de colza. Peut-être qu'on peut le dire comme ça.
Ouais. C'est très beau, c'est très beau.
Et... donc, ce qui en ressort, je trouve, c'est vraiment une grande énergie de réinvention et de réappropriation, notamment à travers ces mythes, peut-être du grand récit humain aussi, et ou notamment de la phrase, par exemple, avec cette décapitation des majuscules, comme ça. Donc, ça qui façonne aussi beaucoup visuellement le texte. Voilà pour cette petite présentation.
Une très belle présentation, merci.
Merci.
Ouais, ce texte, il nous a évoqué plein de choses différentes à chacune. C'est un texte qui interroge la traversée, celle du genre et de ses codes et performances, et une traversée du territoire aussi, où Colza va faire un passage de la campagne à la ville. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que c'est un texte qui amène jusqu'à la toute dernière phrase, on va pas spoiler, et surtout à la dernière phrase, qui amène vers l'interrogation, le refus de la certitude, et qui, bah, moi, qui m'a insufflé l'envie et le courage de me réinventer. Et voilà, j'ai lu ce texte comme une traversée dans l'écriture aussi, une traversée entre un prologue et un épilogue, et entre une amorce et une fin, dont tu ou dont Colza parle à la page 101 en disant « c'est ok de préférer les amorces et les fins ». Et quand tu parles à la page 55, je vais te retrouver. Le corps Gwyn, c'est d'abord ça, une nouvelle puberté choisie et désirée. Moi, c'est un exemple de tous les passages qui m'ont fait beaucoup de bien et où je me suis identifiée à ça. Et j'avais jamais trouvé de mots d'écriture par rapport à ces moments. Et voilà, donc je voulais te remercier.
Merci à toi, merci pour tes mots.
Voilà, ça fait du bien à toutes les adolescentes qu'on a été, je trouve. Et. Voilà pour ma part, un petit peu.
Oui, pour ma part aussi. Alors, est-ce que tu as envie de lire un petit extrait ?
Eh bien oui, avec plaisir. Je crois qu'on m'a conseillé de lire le prologue. Et je trouvais que c'était une bonne idée, c'était une bonne entrée en matière pour tous les sujets qui vont être évoqués, je pense. Mmh. C'est un poil long, mais...
On a le temps.
Allez,
on a
le temps. Donc c'est le prologue. Je suis une enfant. Je pêche des carpes, je capture des têtards, je ramasse des cadavres de mulots, je construis des radeaux et des cabanes, je mange des baies sauvages et la tige des jeunes pousses, je ramasse des glands et des cailloux, je veux être vétérinaire, je veux un chien pour ami, je veux connaître le nom des fleurs et donner des noms aux arbres, et c'est ok. Après quoi, je ne suis plus une enfant. Je vois Homo sapiens piller la nature et c'est ok. Je veux tomber amoureuse, m'habiller chic, faire des études, aller au théâtre et au cinéma, sortir, boire, visiter des amis, essayer des drogues, faire des nuits blanches, manger au restaurant, acheter des vêtements, des livres, des objets absolument nécessaires, prendre l'avion, visiter des villes, écrire, lire, monter sur scène, prendre la parole, plaire, coucher, faire du drame, faire des guerres. Pratiquer mes rituels urbains, boire mon café au lit le matin, acheter une sampée citron framboise quand je vais à la laverie, fumer un tarpé en écoutant Supertramp, avaler un ecstasy en écoutant French 79, jouir avec un aspirateur à clitoris, regarder les stories Instagram au réveil, retourner la première cigarette que je touche dans le paquet et la fumer en dernier, acheter un ticket de blackjack une fois par mois, sortir les poubelles du resto le jeudi et le dimanche, écouter France Culture en faisant la vaisselle, binge-watcher quand j'ai mes règles, prendre un doliprane un lendemain de cuite, débattre. Avoir des principes, luxe économique, sociologique, de classe, de milieu, revendiquer. Avoir accès à tout, la culture, les études, le logement, la ville, l'identité, les frontières, l'autre bout du monde, le bio, l'expression, le travail, le sexe. Accès au laser, aux hormones, à la chirurgie, aux psychotropes, aux anxiolytiques. Accès au sommeil, à la libido, à l'érection, à la grossesse, à la contraception. L'empirer est une industrie pharmaceutique, la vie une défonce. La mort, une redescente, avec son cocktail d'antidouleur. Je pense à ma grand-mère qui souffre son dernier sprint dans un lit d'hôpital, à un plafond dans l'iris, à un mur sur la langue. Est-ce que c'est toujours ok ? Depuis longtemps que toucher un arbre, arroser une plante, semer une graine, regarder une fleur ne me donne plus de force. Ce qui m'en donne, c'est une belle paire de souliers vernis Auburn avec deux boucles latérales, un pantalon de costume, une chemise et une pinte de bière à 8 degrés. Pourtant, j'ai fort à parier qu'une paire de monk shoes et une bière ne me seraient d'aucune utilité dans un champ. Je parle d'un rapport de force à l'urbain. Je parle d'une sociabilité faite exclusivement d'hommes. Ça demande de la force, et notamment en matériel. À un moment donné, à endroit donné, s'être trompé sur la focale. Adolescence plus libido plus homo sapiens. Tout ça qui compte. On a capté mon attention, j'ai été distraite, j'avais l'esprit papillonne. J'ai tourné la tête et je suis restée bloquée. Je vis en ville. Je vis dans un appartement minuscule. Je vis dans une boîte en carton. Presque pas un mensonge. Je me suicide un peu tous les jours. C'est ok. Je suis déjà un peu morte. Je suis un animal mort. Répète après moi, je suis un animal. Répète après moi, ce n'est pas une insulte. Ok ? Mais comment fait-on d'abord ? Je ne veux pas être la déprimée, la haletante, la pantelante dans la côte monstrueuse. Je ne veux pas être celle que l'on évite pour ses cheveux crasses, ses raideurs de visage, ses adieux chaloupés dans le regard. Je veux aller bien parce qu'aller bien est une chose simple, ok ? Parce qu'on a besoin de peu de choses pour aller bien. Je veux savoir quelles sont ces choses, ce peu de choses pour aller bien. Je veux construire quelque chose. Pas une carrière, pas un plan de vie, mais une cabane, un pull ou un livre. Je ne veux pas faire de plan. Un plan aide à se repérer. Moi, je ne veux pas être perdu, compris ? Je ne veux pas perdre ce qui m'appartient. Je ne parle pas d'une maison, d'un travail, de mes vêtements. Je parle de ce qui m'appartient depuis mon premier jour. Ma vie, mon corps, mes sens, ma joie, ma force, mon amour. Je ne comprends pas comment on perd ces choses-là, vraiment. Je lis un livre. Lire un livre, c'est se reconnecter. Ok. Lire un livre, ça veut dire qu'on est déconnecté et qu'on doit se reconnecter. Ok. Mais comment se reconnecte-t-on ? Physiquement, je veux dire. Comment passe-t-on du livre à la réalité ? Je lis un livre qui me raconte comment je me suis déconnectée. Un livre, plus un livre, plus un livre, plus un livre, égale à un grand mensonge couplé d'un grand complot. L'histoire est une menteuse. L'histoire a un sens. L'histoire n'a qu'un sens. Le sens du progrès. L'histoire est une flèche. L'histoire avance et je n'ai pas les jambes. Ok. L'histoire qu'on m'a racontée n'est ni la mienne ni la seule, vraiment. J'avais le corps, la force, la joie, l'amour. J'avais tout pour faire sens dans le monde. J'avais tout pour être connectée. J'avais tout pour dialoguer avec le vivant. J'avais tout pour être du vivant dans du vivant. M'emboîter, faire partie de, construire avec. J'ai aimé la ville, vraiment. La ville, ça voulait dire être cette femme lesbienne, étudiante, employée précaire, flexitarienne, amoureuse, tatouée, impatiente et sagittaire. Ok. La ville, ça voulait dire devenir cette Gwyn, butch, misandre, manifestante, écrivaine, ascendant lion, drague et agnostique. Avoir été une lesbienne mainstream, née du drama Gwyn et du nanar américain. Devenir une Gwyn radicale, bouturée à la misandrie et au travestissement. J'ai aimé la ville, vraiment. C'est ok. Je l'aime encore. J'aime le bruit de la ville. J'aime les gens de la ville. J'aime les manifestations en ville et j'aime les manifestants et les manifestantes. J'aime les cafés en ville et les cinémas et les librairies et les théâtres et les parcs et les squats. Et les gens dans les cafés et les cinémas et les librairies et les parcs et les squats. Avoir passé 25 ans à vouloir une chose, puis son exact opposé. Je me suis annulée. Maintenant je suis perdue. C'est ok. Maintenant j'écris colza et c'est ok.
Merci.
C'est programmatique, on peut le dire.
C'est génial qu'on puisse entendre ta voix sur ce rythme, sur le rythme du texte. Il est fait pour être lu, en fait.
Bah, je pense que c'est la première... Enfin, si j'ai dû me le lire. Mais je pense que c'est la première fois que je le lis à des gens aussi. Enfin, bon, c'était agréable pour moi aussi. Ouais. Ça me le
T'avais
fait...
T'avais pas eu l'occasion de lire le prologue
Non.
En exclusivité sur les lessives. Ben, merci beaucoup. On va un peu parler maintenant de la genèse de ce livre. Et on avait envie d'un peu en savoir plus sur ton processus de création. Donc déjà, comment tu l'as pensé, ce livre, construit, sur quelle période et aussi par après, comment tu as pensé le personnage de colza?
Du coup, il y a eu un premier manuscrit qui ressemblait pas du tout à ça et que j'avais écrit, que j'avais commencé un été. Je revenais, j'étais partie 4 mois en Amérique du Sud et je suis revenue. J'étais un peu perdue, il y avait le décalage. Je venais de terminer le master en création littéraire. J'étais partie faire ce voyage solo. Je suis rentrée, j'avais plus de pieds à terre. Je suis allée vivre chez mon père et j'ai bossé. Du coup, mon père qui vit dans le Gers, donc à la campagne. Et j'ai bossé dans des silos. Et du coup, il y avait ce truc de... Je faisais l'analyse des grains, et dont des grains de colza, par exemple. Et donc, il y avait ce truc de revenir dans ce milieu où j'avais grandi et que j'avais beaucoup voulu fuir aussi. Et c'est là que je me suis mis à écrire colza. Et j'arrive même pas trop à me souvenir à quoi ressemblait la première forme, tellement c'est loin. Mmh. C'était beaucoup plus adressé aussi à une personne avec qui j'avais relationné, du coup. Donc, ouais, vraiment cette écriture du jeu adressée à un tu. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le réécrire parce que je l'ai envoyé aux éditions Blast qui m'ont fait un retour et qui, en gros, le retour disait ben, on accroche avec ton écriture, mais on pense qu'il faut retravailler quoi, la structure, la forme, où ça va, qu'est-ce que ça raconte. Et ce qui était bien, c'est que je venais à ce moment-là de reprendre des études à distance et d'intégrer un master en éco-poésie avec l'université d'Aix-Marseille. Et c'était un master à la fois théorique et pratique où il y avait la possibilité soit de produire un mémoire, soit de produire un texte créatif en fin de contenu. Et donc c'est tombé en même temps cette proposition de retravailler Colza de la part de Blast et ce master où je devais avoir un projet. Je me suis dit, bah, je vais faire d'une pierre deux coups. Et le master m'a beaucoup aidé, je pense, à restructurer vraiment le roman. On avait des cours de méthodo aussi, ce qui était un peu surprenant pour moi, parce que je pense que y avait pas cette j'avais jamais eu cette rigueur-là ou cette méthodologie-là, mais qui m'a permis et notamment de réaliser qu'un bon récit aussi, il fonctionne avec cette idée d'un conflit, que c'est ce qui fait aussi beaucoup avancer... la forme narrative est un conflit qui souvent de prime abord est irrésolvable, où ça crée de la tension à la lecture, et donc c'est toute l'idée du prologue, on sent qu'il y a un conflit entre moi maintenant, moi avant, ça semble inextrême, enfin voilà,
et c'est ok
c'est en tout cas voilà, ça a été ce master là qui m'a donné l'opportunité de réécrire vraiment un deuxième manuscrit, qui m'a donné un peu plus de rigueur, qui m'a fait penser plus la forme, ok, où je vais, qu'est-ce que je raconte, comment je résous là.
Ok.
Voilà. Et oui, et y avait une question sur le personnage ?
Oui, sur le personnage de Colza.
Ouais.
Donc, ce personnage, il a été créé dans un silo, c'est ça.
On peut dire ça. Mais alors, ce qui est... Vraiment, c'est un peu improbable. Les réponses vont être décevantes. Non, au début, dans les mythologies, le personnage s'appelait la cobra. Et pas du tout Colza.
Ah ouais.
Le bouquin s'appelait Colza. Ouais, la cobra. Ouais.
Ça claque, ouais.
Et le bouquin, on aime Colza. C'est un peu plus doux, c'est un peu plus... dans tous les cas, je voulais que le bouquin il ait ce nom-là, Colza. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça, il tient à rien ce titre ? Vraiment, c'est juste Colza parce que j'ai bossé dans des silos, presque c'est mon secret, ça m'appartient. Il fallait qu'il y ait un meilleur prétexte. En fait, donc j'ai vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait le titre, il fallait trouver une raison, une validité à ce titre-là. Et donc je me suis dit, la cobra c'était un délire comme ça, mais ça fait beaucoup plus sens que ton personnage s'appelle Colza, d'autant plus que c'est cette espèce de clin d'œil à là d'où tu viens, enfin en tout cas cette ruralité. Donc c'est d'autant plus intéressant que ce soit lui qui te réconcilie via en plus son expression de genre qui s'est construite, qui s'est déconstruite, que ce soit lui qui vienne faire le lien entre le toi passé et le toi présent. Donc c'est un peu comme ça, et puis vraiment ouais, ça faisait sens.
Et le toit de la ville et le toit de la campagne,
ouais, le toit,
hein. on en reparlera peut-être après. On a des questions par rapport à ça, je crois. Et par rapport aussi à ton processus de création, on avait envie de savoir un peu quelles étaient tes inspirations et comment s'est façonné ton langage, parce qu'on en a un peu parlé, c'est un langage très, très fort et particulier, et on avait envie d'en parler.
Ouais, et j'aurais un peu du mal à me souvenir, mais c'est comme les processus de création, des fois je me dis qu'il aurait fallu noter des choses aussi parce que je sais que je suis passée par plein d'étapes et de doutes, voire à focaliser sur des choses bêtes. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui se déclenche après des mois où t'es obsédée par le mauvais truc. Et du coup, je regrette de pas pouvoir me souvenir mieux. Je sais qu'à ce moment-là, surtout par rapport à... C'était beau quand tu disais de décapiter les majuscules. Une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mémoire d'Ancrier, qui est une maison québécoise. Et je venais de découvrir Lynn, je crois que c'est Beta Samoke Simpson, autrice autochtone donc qui vit au Canada, et qui a écrit Cartographie de l'amour décolonial, qui est vraiment un recueil de... On pourrait dire que c'est un recueil de nouvelles, et il n'y a pas une majuscule. Et je sais que ça m'a frappée, et c'est un truc bête, c'était que je bloquais vraiment, j'avais l'impression que je ne pouvais pas continuer à écrire, à produire de la matière si... J'avais pas débloqué quelque chose de la forme qui me disait, il me fallait un cadre formel pour continuer à produire du texte. Si j'arrivais pas plus à savoir à quoi ça allait ressembler ce bouquin physiquement, j'arrivais plus à produire du contenu. Et de faire ça, tout bêtement, de commencer à écrire sans les majuscules, ça a vraiment débloqué un truc. Et ça, j'explique pas pourquoi. Et j'ai beaucoup aimé, en tout cas, dans l'effet que ça produisait en lisant Cartographie de l'amour décolonial, ce côté très compact à la fois du texte, parce qu'il n'y a pas la rupture visuelle de la majuscule. et en même temps une grande fluidité, quelque chose qui s'écoule, une parole rivière. Et voilà, donc ça a été une inspiration, c'est sûr, parce que ben, voir, en fait, je l'ai pastiché, enfin j'ai pastiché en tout cas ce truc d'enlever la majuscule, quoi, ça m'a beaucoup inspiré. Après, beaucoup de poésie, je lis beaucoup de poésie, enfin je lisais surtout, c'était la première fois que je m'essayais même à de la, enfin vraiment une forme de prose longue, j'avais un peu écrit des nouvelles, mais je venais plutôt de la poésie. Et donc, j'imagine que c'est de là que provient le lyrisme aussi, le côté, que c'est pas un truc que je voulais abandonner en passant à la prose, quoi.
Et c'est je me demandais si le fait de passer d'un format court, qui est plutôt la poésie, à un format un peu plus long, ça a été...
Je pense que ça a été un vrai plaisir aussi de lâcher les chevaux du lyrisme. Enfin, dans la poésie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus condensé, resserré, elliptique aussi. Donc il y a une préciosité de ce qui est sélectionné, de ce qui est gardé. Là, il y avait la possibilité plus de l'excès, du débordement. Et donc c'était finalement aller dans l'opposé aussi. Au lieu d'être dans le resserrement, dans le débordement. Et je pense qu'en vrai, j'ai adoré, et notamment sur les mythologies, où là, en plus, il y avait une espèce de possibilité de tout invoquer, enfin, sans, que ce soit voilà, la nature, les éléments, et vraiment d'y aller dans le lyrisme à balles, et j'ai adoré.
Ouais.
C'était très plaisant.
Maintenant, on avait quelques questions sur l'édition, enfin la maison d'édition. On est vraiment très curieuse de t'entendre parler de ton rapport avec la maison d'édition Blast, que moi je ne connaissais pas avant. Oui, j'avais une première question. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as trouvé en fait cette maison d'édition et pourquoi tu as choisi de leur confier ton manuscrit? Est-ce que tu as eu l'impression que Blast t'offrait un espace de liberté où ta voix serait portée et soutenue?
Ça s'est pas passé dans ce sens-là, et c'est ça qui est marrant. Je pense que la rencontre avec Sol et Karima de Blast m'a fait réaliser beaucoup de choses dans ce sens, et aujourd'hui je me positionnerai différemment. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces considérations politiques, militantes, même ciblées sur l'édition. Moi, ce que je voulais, c'est que ce texte il sorte, quoi. Je pense parce que souci de légitimité, besoin qu'il y ait voilà, ce truc concret de l'édition qui arrive pour dire ok, t'es dans la bonne voie, ce que tu fais, ça a du sens. Et bon, je m'étais quand même concentrée sur des petites maisons d'édition, je ne visais pas des grosses structures. Et donc je faisais des recherches en ligne et puis je voyais plus ou moins des choses qui pouvaient correspondre. Et Blast, je leur ai envoyé des mois après avoir fait mes envois de manuscrits, parce que j'en ai entendu parler comme ça au détour. C'était au tout début, je pense que ça naissait vraiment, ça doit avoir 2 ou 3 ans, la maison d'édition. Et donc j'en ai entendu parler, j'ai vu que c'était toulousain, je me suis dit bon, je tente ma chance. Mais sans connaître même leur ligne éditoriale, que aujourd'hui je dirais ok, évidemment c'est une maison d'édition queer, militante, féministe, intersectionnelle, antiraciste. Mais ça, je savais pas tout ça. Et du coup, je l'ai envoyé un peu comme ça au pif. Et c'est après que j'ai compris dans quoi je mettais les pieds. Et tant mieux. Enfin...
Bah, je trouve ça joli, en fait. Que ce soit le hasard qui a fait bien les choses, du coup. C'est joli aussi. Et est-ce que tu penses que l'indépendance, ou l'existence, allons-y carrément, des maisons d'édition comme ça, qui sont plus petites, parce qu'elles sont plus fortement engagées aussi, puissent être menacées par les entreprises de Bolloré, notamment avec le rachat et la fusion de Hachette et Editis?
Peut-être ma réponse va être super naïve et utopique, mais je pense que bien sûr ça créera des vraies conditions matérielles peut-être plus compliquées, mais je pense que l'édition indépendante et militante ne mourra jamais. Je pense qu'il y en a toujours eu, il y a toujours eu des formats, que ce soit depuis la naissance de la presse, il y a toujours eu cette résistance-là par les mots et la littérature. Et je pense que c'est... bien sûr, Bolloré, ça va faire que ça va uniforme, enfin, si ça se passe, mais bon, c'est déjà peut-être un peu engagé, ça va uniformiser cette lecture, en tout cas, aussi la plus visible, la plus grand public. Mais je sais pas si ça aura des conséquences très directes sur... Enfin, je pense que Blast continuera d'exister, Blast continuera de publier les textes qu'elles ont envie de publier.
Donc ça va peut-être renforcer l'engagement de ces maisons.
Ouais, je suis sûre qu'il y en aura d'autres même qui fleuriront et qui naîtront en opposition.
En opposition à ça, ouais. Un peu comme l'a fait Virginie Despentes, du coup. Ouais. Ça m'a semblé qu'elle a créé sa maison d'édition par rapport à ce fait-là, justement. Ouais.
Oui, mais c'est une vraie question, ça, l'utilité aussi de la démarche de Virginie Despentes, et à quel point aussi elle va pas manger des structures déjà existantes, et comment ça aurait pu être un soutien aussi super symbolique de dire ben, par contre je vous aide à vivre, déjà je publie chez vous au lieu d'aller publier dans des maisons comme Grasset, etc. Et en plus, si j'ai de la thune, je vous la file pour que vous fonctionniez, parce que vous êtes déjà là, vous faites déjà un taf de ouf et vous galérez à survivre.
Oui, aussi, ouais. Peut-être que tu peux aussi répondre, enfin, si tu as envie de rajouter quelque chose.
Mais moi, c'est plus sur. De toute façon, en fait, comme tu disais, en fait, elle va pas mourir, cette écriture-là. C'est déjà des. En fait, c'est un moyen d'expression très fort, l'écriture, et en fait, c'est un acte de résistance. Et pendant la guerre, il y avait. Enfin, je pense à ça, mais. Claude Cahun et Marcel Moore, qui étaient déjà dans une pratique, en fait, voilà, où elles allaient écrire des billets de résistance qu'elles glissaient dans les chemises des soldats allemands pour les inviter à la désertion, tout ça, qu'elles imprimaient sur de la soie pour que ça fasse pas de bruit. Donc voilà, en fait, il y a toujours des moyens, même quand on a plus grand-chose, toujours des moyens de résister, de faire entendre nos textes. Et merci à Blast d'exister. Et ouais, mais voilà.
Oui, ça peut renforcer le lien de confiance entre des éditeurices et leurs auteurs, je pense. Pardon. merci beaucoup pour ces réponses sur l'édition. Après, moi, c'est des questions que je pose parce que je suis inquiète. Donc, c'est bien aussi d'avoir des réponses comme ça, fortes et positives. Donc je propose qu'on fasse une petite pause musicale.
Je veux ce qui les envies d'homicide. Go au studio, me lisie. Green, est-ce qu'il n'y a pas besoin de missy? Bébé, reste dans mon lit. Je préfère quand on se damise. Qu'en 69 qu'on approche l'équité, y'a qu'en Amazon qu'ils sont dociles, oui. Pas d'éther tant que je suis sobre. Je tourne en rond, parle pas de tant de choses, ouais. Si je prends du recul, envie de grand sommaire. Je rêve de carnage, donc je suis l'ogre. Trop de haine, finirai seul comme Bojack. Mère, je m'enfonce tellement, je pourrais attendre le Bushman. Hey, moi je reprends ma vie en main ou un bon Jack. Sex, si je suis sale face aux démons, je me couche jamais.
Je suis talon comme Sarah Lynn, je rêve de la maille comme Sarah Lynn. Dose de cheval comme Sarah Lynn, complètement dead comme Sarah Lynn. Je fais des talons comme Sarah Lynn, je fais de la maille comme Sarah Lynn. Dose de cheval comme Sarah Lynn, complètement dead comme Sarah Lynn. À raconter les mêmes trucs de B en boucle. Ouais, j'ai sorti mon flow, tu l'as pris en bouche. J'ai des humeurs extrêmes, je vois la vie en double. Des jours où je crois en rien, d'autres où je prie en douce. Je voulais riable de resta comme Sarah Lynn. Me droguer à mort, mec, ça gâche pas ma vie. Peut-être je suis pas maline, mais je vois pas la diff. Entre nuages de machines et paradis, hey. Je sais, c'est pas bon pour moi tout ça, mais le monde réel, il est mauvais tout court. Paraît qu'il y a un remède pour tout. Xanax et cocaïne pour soigner coup de blues. Hey, hey, paradoxe. Le lendemain, tout est pire, je vois la réalité en puissance. Trois épuisant, je crois que pour tenir le coup, faut que mes capas de tennis plient en classe. Hey, t'inquiète si je m'évanouis, ça m'arrive. Je sais faire semblant, mais c'est pas la peine. J'ai désactivé l'avenir comme Sarah Lynn. J'ai quand même peur de la mort en parallèle.
J'ai des talons comme Sarah Lynn. Je veux faire de la maille comme Sarah Lynn. Dose de cheval comme Sarah Lynn. Complètement dead comme Sarah Lynn. Je fais des talons comme Sarah Lynn. Je veux faire de la maille comme Sarah Lynn. Dose de cheval comme Sarah Lynn. Complètement dead comme Sarah Lynn.
Yeah, yeah. Maintenant je tape dedans comme une piñata. La vie plus violente que ta piranale. 420 jours ou nuit, on est pile à l'heure. Confinement ou pas, je suis en pyjama. Mais monte le son que je monte les dents. Je connais toutes les ans, c'est tous les monstres des gens. Et tombe, retombe, c'est pour le compte des banques. Autant rester dans son lit, autant qu'on se détendait. Sauf quand ma con se descend, j'attends la compagnie du monde comme un 11 septembre et mes idées à la concédante. Si tu t'affaibles, tu crèves et après on s'étonne. Oi, oi, mate la fumée dans mon lit.
Matelas de fumée, c'est mon lit. J'ai mes doses, 80 centimes, le nouveau mec dans mon lit. J'fête le 13, 12, 420, une nouvelle an dans mon lit.
J'fais des talons comme Sarah Lynn. Je veux faire de la maille comme Sarah Lynn. Dose de cheval comme Sarah Lynn. Complètement dead comme Sarah Lynn. J'fais des talons comme Sarah Lynn. Je veux faire de la maille comme Sarah Lynn. Dose de cheval comme Sarah Lynn. Complètement dead comme Sarah Lynn. Quand on sort c'est maladif, bébé je tiens pas à la vie. Sororité, barbarie, touche à ma clique, je te maravouille. Béda, bibine, paradis, je l'emporterai pas au paradis. Fais le frotteur, je te casse la bite, complètement dead comme Sarah Lynn. Quand on sort c'est maladif, bébé je tiens pas à la vie. Sororité, barbarie, touche à ma clique, je te maravouille. Béda, bibine, paradis, je l'emporterai pas au paradis. Fais le frotteur, je te casse la bite, complètement dead comme Sarah Lynn. Ton sort c'est maladif, bébé je tiens pas à la vie. Sororité, barbarie, touche à ma clique, je te maravouille. Mesdames, bibine, paradis, j'emporterai pas au paradis. Fais le frotteur, je te casse la bite, complètement dead comme Sarah Lynn.
Sarah Lynn.
On est donc sur Canal Sud, Les Lessiveuses, en compagnie de Manon Alla et Alice Bailac. Et on était en train de parler avec toi, Al, de ton livre Colza, paru aux éditions Blast. On t'a un peu cuisiné sur l'édition, tout le travail d'édition. Et du coup, on aurait aimé en savoir un peu plus sur la relation que tu as réussi à créer avec tes éditeuristes et comment ça s'est passé, le travail d'édition. Et voilà.
Oui, c'est effectivement une relation assez privilégiée, en tout cas avec beaucoup de confiance et de liberté, d'écoute et de soin. Je pense que c'est tout ce qui fait sens quand on parle, je pense, de militantisme dans l'édition aussi. C'est ramener ces valeurs-là, qui ne sont pas des valeurs qui existent dans le milieu du travail. Le care, le soin, enfin, on n'est pas là pour ça normalement, tu vois. Donc là, c'est assez incroyable. Et le travail s'est toujours fait. Et ce qui est incroyable avec Sol et Karima, c'est qu'elles repensent toujours leurs conditions. Qu'est-ce que ça veut dire d'éditer des textes, quel ascendant tu peux avoir, position de pouvoir tu peux avoir par rapport aux écrivains, aux écrivaines, comment ça peut créer une hiérarchie, et comment tu peux en profiter et en jouir. Et du coup, ce qui n'est pas du tout le cas, bien sûr, dans la façon de travailler de Blast, qui a toujours ce truc de dire tu auras le dernier mot sur ton texte. Et tout est toujours dans la proposition, du coup, de telle page, on a remarqué ça, on se disait que... Enfin, non, vraiment une recherche, une écoute, qu'est-ce que t'as voulu dire, compréhension. Et du coup, je me suis sentie à aucun moment désinvestie de mon texte ou qu'on me le... Ouais, j'ai toujours senti que c'était le mien de A à Z. Ouais. Et donc, voilà, je les remercie pour cette écoute-là, ce soin-là.
Ça revient à la thématique du consentement, que ça s'applique également avec les éditeurs, les éditrices, de finalement faire attention à toutes les étapes de ton texte, que t'es d'accord et que t'as le dernier mot, quoi.
Complètement.
Voilà, donc on remercie les éditions Blast pour leur travail. Yes. On va passer à la suite de nos questions. Lucie, quelles étaient nos questions?
Oui, c'était. On avait une thématique qu'on voulait aborder, c'est sur les espaces extérieurs et intérieurs. Enfin, disons que les deux sont mêlés, en fait. Et oui, j'avais une question sur la dualité entre la ville et la campagne, parce que c'est une dualité qui est complémentaire, quand même, j'ai trouvé. Et nous aimerions t'entendre sur le rôle de la ville. Et justement, on l'entend bien dans le prologue, je trouve. Parce que c'est cet espace urbain qui est très politisé, très politique, où les corps se doivent d'être identifiés, où il y a une prise de pouvoir et le corps dans l'espace urbain doit s'imposer quelque part pour revendiquer sa réappropriation, en fait. Et la campagne... À côté de ça, ça semble être un espace où vit un peu plus l'essence, peut-être, de l'être, où il est plutôt mis à nu par le non-besoin d'être défini, ou en tout cas un petit peu moins. Et la question, c'était, est-ce que cette dualité entre ces deux espaces t'a-t-elle aidé à comprendre que le doute est une ou
enfin la réponse, je sais pas, à la question qui je suis.
Mais en plus j'avais envie de, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur cette dichotomie urbain et rural. Et j'ai découvert du coup quand je réécrivais la deuxième version de Colza, la légende d'Hippolyte. Et qui m'a vachement marqué. Du coup, Hippolyte, c'est ce jeune et faible hein, dans la mythologie. Et tous les jours, il va se balader dans la campagne. Et il va fleurir la tombe du coup d'Artémis, enfin Diane, qui est la déesse de la nature. Et il prend garde à ne jamais fleurir la tombe d'Aphrodite, qui est la déesse de l'amour. Et en fait, la légende raconte qu'il a... tout le monde le trouve beau, et donc tout le monde a envie de l'aimer. Donc il est courtisé par les hommes, il est courtisé par les femmes. Mais lui refuse absolument, se désintéresse complètement de ses semblables. Et par contre, toute sa libido, tout son érotisme est tourné vers tout ce qui l'entoure, la nature, dans laquelle il se sent bien. Et, voilà. Et ça m'a marqué ce mythe parce que c'est ce que dit le prologue. C'est pour moi, il y a eu une véritable incompréhension, et du coup, assez récemment, de me dire mais j'ai été cet enfant où tout mon corps était très réceptif à mon environnement. Je me sentais vraiment ancrée, et du coup, j'ai vraiment grandi dans un petit hameau, donc la campagne. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça n'a plus été possible, ce rapport-là au vivant qui n'est pas humain, voire ça me rebute, voire je ne sais plus comment faire se connecter. Et en plus, avec toutes les problématiques écologiques qu'on entend, je me dis que c'était encore plus dramatique que je n'ai pas cette empathie-là pour le reste du vivant qui n'est pas mes semblables. Et donc, vraiment, de comprendre qu'il y a eu ce moment à l'adolescence de libido et de focale qui s'est faite sur l'humain qui m'a complètement détournée du reste. Et ça m'a fait vouloir travailler cette thématique rurain-urbale. c'est intéressant. Un petit lapsus. Et ce qui était à propos, du coup, de faire le master en éco-poésie, parce que j'ai découvert toute cette pensée aussi, avec notamment Donna Haraway, qui va, par exemple, écrire Nature culture tout attaché pour dire il faut en finir avec cette dichotomie nature culture en fait les deux fonctionnent de pair, les deux se nourrissent, les deux voilà, les deux avancent ensemble. Et j'étais toujours obsédée, je me disais que c'était parce que j'étais homo que au bout d'un moment la nature n'avait plus été accessible pour moi. Et en faisant un peu des recherches sur ce qu'on appelle l'écologie queer, qui est du coup un mélange et les théories queer et les théories écologiques, ben, j'ai découvert que forcément, en fait, il y a tout un discours déjà qui dit que l'homosexualité, c'est contre nature. Donc comment tu veux te sentir accueilli par quelque chose dont on te dit que de toute façon, par essence, tu es quelque chose de contre nature. Et donc c'est comme si, en plus, on te refuse aussi tout un territoire, en fait, en te disant ce n'est plus ton espace là. Et donc on voit dans les récits, et du coup c'est pour ça, c'est le morceau qu'on va passer après, je l'évoque dans Colza, il y a Small Town Boy, c'est le topos de l'homo qui part de la campagne pour aller à la ville où il va se réaliser. Et y a un sociologue, je crois, qui dit ça, que la ville, c'est vraiment le lieu vital pour l'homosexuel, c'est le lieu de réalisation des homosexuels, tu vois. Et je me disais bien qu'il fallait ça provoquait une espèce de souffrance où je me dis il faut réussir à contrecarrer ce discours de il y a que à la ville de toute façon que vous pourrez vous exprimer, il y a que à la ville que je vais me développer, et que ça me faisait rompre. Et donc je trouve que c'est intéressant de proposer des contre-récits. Et à posteriori, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est peut-être pour ça que dans les mythologies, elles sont aussi florales, végétales, animales, que c'était une façon pour moi de renouer. Et c'est ce que je dis, par les livres, par la littérature, c'est un peu complètement désincarné. Et en même temps, c'est une espèce de tentative de se réincarner par un biais littéraire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai complètement dérisé.
Si c'est complètement ça, en fait. En plus, on en discutait quand on préparait l'émission sur ce qui existe déjà à l'état de nature. J'avais parlé des escargots qui sont hermaphrodites, des hippocampes mâles qui portent les enfants, enfin les petits, je ne sais pas. Et que la plupart des animaux sont homosexuels.
Oui, on a sans doute plein de récits queer dans le
ouais, mais...
animal et végétal.
Ouais, complètement.
Les oiseaux,
complètement.
Ouais.
Complètement.
Ouais, on devrait plus écouter la nature et moins ceux qui nous disent que c'est contre nature.
Ah ouais.
Et aussi parce que les récits, du coup, que ce soit les chansons, les récits, mais je repensais à vraiment l'adolescence, pour moi, c'était The L Word et c'était... une des seules représentations de ce que pouvait être la lesbianité et de ce que pouvait être ma vie si je sortais de... Et c'est des récits urbains, c'est des récits et bourgeois et urbains. Donc il y avait ce truc de il faut absolument partir de la campagne et il faut absolument y partir pour aller à la ville. La ville égale l'accès aux études, égale à une ascension sociale qui passe par l'intellectualisation, et ce n'est qu'en étant en sortant de ce milieu que je pourrais l'analyser, me regarder d'en haut et me construire moi-même identitairement, produire un discours sur moi, ce qui est complètement, enfin bon, d'en prendre conscience, c'est voilà, bref.
Bah oui, bah c'est non, mais c'est exactement ça en fait. C'est intéressant de déconstruire cette idée aussi que la ville c'est le monde des idées, avec une circulation qui peut se faire aussi ailleurs.
Une dernière petite question pour la route. Petite question, grosse question. Ben, ça revient à la thématique de ce qui est naturel, culturel, inné, acquis, enfin du gros bullshit, quoi.
Voilà.
Et ce que nous dit avec beaucoup de joie Paul Preciado, que tu cites justement dans ton épilogue. Et moi, j'ai lu, comme chez Paul Preciado dans ton récit, une invitation à imaginer, à penser et à rejoindre cet espace de la traversée. Et ce jusqu'à ta dernière phrase, et qui est un aveu plein de sincérité et de bienveillance, on a trouvé. Et on trouve que Colza, du coup, a la force d'un nouveau modèle, d'une réponse face à l'absence de référence qu'elle a eue dans son parcours. Et on voulait savoir, voilà, si ça fait partie de ton engagement politique, que de faire de Colza, de la figure de Colza, un nouveau modèle pour tes lectrices, un nouveau modèle qui est vraiment bienveillant, honnête, et qui laisse place jusqu'au bout de la phrase, ou jusqu'au bout de l'existence, en fait, tense à l'incertitude de l'identité et à la déconstruction, reconstruction sans cesse, quoi, de l'identité. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est que non, je me suis pas dit que j'avais envie de créer un modèle ou en tout cas une figure exemplaire, ça c'est sûr que non. Ouais. Après, bien sûr, je me disais politiquement, et j'inviterais tout le monde à le faire, enfin toutes les personnes en tout cas qui se définissent en dehors d'un spectre super hétéronormé, à prendre la parole et à raconter les récits et à raconter ces récits-là. Et pour revenir sur Preciado, qui effectivement, à un moment donné, je pense, quand j'ai découvert, m'a fait beaucoup de bien, et cette idée de la traversée. Et justement, il questionne ce mot traversée, parce que ce que dit Preciado, c'est qu'il n'a pas quitté une expression de genre pour aller vers une autre, que c'est pas ça le but. Le but, c'est effectivement de faire péter cette cartographie des corps et de venir mettre du trouble là-dedans. Et du coup, et puis en plus, vraiment, on revient sur cette dimension de linéarité du temps. C'est marrant, ce truc du temps straight aussi, on dit, genre straight, qui en anglais, c'est extraordinaire, veut dire à la fois hétéro, mais à la fois droit, le côté droiture. Donc d'un temps qui avance, d'un temps qui est linéaire, d'un temps qui est, c'est vraiment cette flèche. Et de venir contrer ça avec le queer, qui étymologiquement veut dire tordu, de venir tordre ce temps, distordre ce temps, créer des moments d'extase, de contemplation, de rupture. Et du coup, ouais, vivre dans cet endroit un peu flou, en fait, qui est à la fois de base assez inhospitalier, parce que c'est très compliqué de se dire qu'on vit dans un espace qui un entre-deux, quelque chose de pas défini, quelque chose qui est à la marge, à la lisière, et de le faire, je pense, de le rendre le plus accueillant possible. Et il y a pas longtemps, je réfléchis, parce que j'ai grave envie de travailler sur la figure des Butch. Je vais pas préciser ce que c'est parce que je pense que c'est bien que notre vocabulaire ne soit pas toujours à définir, alors que le vocabulaire des hétéros donc des Butch, et qui pour moi sont des figures justement de la liminalité, et des figures un peu justement aussi fantomatiques, qui ont ce côté il y a ce truc avec les fantômes, c'est des figures de la marge ou de la liminalité, parce que on dit que les fantômes, ils existent parce qu'ils attendent de mourir, ils attendent qu'on les laisse partir. Et j'ai l'impression que dans les Butch, il y a cette espèce de truc, de comme c'est une histoire qui peine à exister, qui est sur un fil ténu, comme si les Butch attendaient de savoir si on allait les laisser mourir ou si on allait les garder vivre. Et que tant qu'il y a des personnes pour réactiver leur mémoire, pour conserver leur mémoire, les Butch resteront en vie. Et j'aime bien du coup me dire qu'en tout cas dans l'écriture, il y aurait cette espèce de truc où je pourrais être... je pourrais porter cette espèce d'âme de génétique qui est pas, parce que c'est toujours pareil, c'est notre histoire, elle est pas culturelle, elle est pas biologique, héréditaire ou truc. On sait pas trop ce qu'elle est, de quel caractère elle est, mais en tout cas je trouve ça beau que dans la littérature il y ait cette espèce de truc de mémoire portée et de et voilà, et bref, du coup de porter ses fantômes dans ses livres, de porter hommage, de porter mémoire et de porter ces figures qui sont justement à la marge, qui attendent, qui sont dans ces limbes, quoi. On appelle ça les limbes dans la mythologie aussi. Et d'ailleurs, il y a une idée de traversée. On traverse le Styx avec la barque et pour rejoindre le royaume des morts. Et donc, cette espèce d'entre-deux qui est quand même super inhospitalier, parce qu'on attend de savoir si... Je sais pas. Mais voilà, bon, bref. Donc, ce flou, ouais. J'ai encore grave digressé.
Non, pas du tout.
Oui.
Ben, ça nous fait bien plaisir d'avoir toutes ces réponses.
J'ai bien bossé.
J'ai bien bossé.
On a eu les questions avant.
Ouais. Mais c'est très beau ce que tu dis par rapport queer tordu. Moi, je ne savais pas l'étymologie de ce mot. Et ces idées de boucle et de fluidité, ça fait du bien, en fait, d'entendre ce récit-là, quoi, d'une vie qui n'est pas linéaire et d'une identité qui peut... De retour en arrière possible aussi, je pensais à ce que bah, Coles a dit un moment dans le bouquin, et de cette deuxième puberté, de cette deuxième adolescence, de pouvoir revivre différemment de nouvelles étapes de la vie constamment, quoi. Voilà, je trouve ça beau, et merci.
Eh bien, je conseille la lecture d'un super bouquin qui s'appelle Cruiser l'utopie, de José Esteban Muñoz, que moi, je pourrais relire, je pense, plein de fois, et qui a cette... c'est lui, vraiment, qui insiste sur ce temps straight, et que le temps queer n'est pas un temps straight, et vise un horizon utopique, et aussi beaucoup plus cyclique, et fait le lien entre le passé et le futur, avec cette idée aussi que le passé, il est aussi mobile et mouvant, il n'est pas figé. Et ça, je trouve ça, cette idée très belle. Voilà.
D'accord, on notera la référence sur le site de Canal Sud des Lessiveuses. Et est-ce que tu as envie de faire une dernière lecture ou on s'arrête là et on écoute
la musique. On peut écouter Small Town Boy, on verra après, parce que je sais même pas quoi lire du coup.
Ok, d'accord, on va d'abord s'écouter une petite musique.
Run away.
Cette émission touche à sa fin. On va remercier Manon Alla et, pour d'être venue nous parler de sa revue poético-postale, La reprise de l'amour, et qui est venue nous lire des textes de son deuxième numéro qui paraîtra en septembre. C'est bien ça. Voilà, donc on se tient au courant. On tient aussi à te remercier, Alice Bailac, d'être venue nous parler de Colza. Et on va finir sur une lecture pour se faire plaisir.
Ben merci à vous en tout cas pour vos mots, vos questions. Oui. Après quoi je m'enfonce. Chemin cranté de ronces, sylve aux abois des crêtes, talus chauve ou calotte enherbée ou encore lande touffue. Je trouve une place d'herbe haute et m'allonge, le corps couronné d'épis verts et luxuriants. J'essaie de ne pas trop penser aux tiges qui grattent, aux mottes qui concèdent entre mes omoplates, à la chatouille à peine effleurée des fourmis noires sur mes bras. De ne pas craindre la vacuité du tissu qui protège ma nudité et l'ouverture béante de mes orifices faciaux, grotte humide pour les six pattes qui m'escaladent. Angoisse tenace de la pénétration non consentie d'un corps vivant dans un autre corps vivant. Que tout ce qui papillonne et fourmille en moi reste de l'ordre de la métaphore. Dépensé dans l'exercice physique de la marche puis de la sieste, un imaginaire urbain dont l'appréciation capitaliste dicte la forme préfabriquée d'une lutte pour l'espace en commun. Comment dès lors communier avec cet espace rural qu'une mémoire du fond de l'enfance réclame? Je reviens de la ville avec des mots nouveaux et je ne peux pas me vider d'eux comme on vide ses poches sur sa table de chevet avant de se déshabiller et de se laver nu au baptême du sommeil. Je me demande ce que les mots changent, déchargés sur le non-lieu de leur découverte. Comment mon corps, criblé d'une pensée balistique militante et urbaine, filtre nouvellement la lumière dans le non-lieu de cette mitraille langagière. Je reviens avec le mot agraphobie. Il est dit « crainte exagérée du viol ». Ce mot n'a jamais pesé sur un chant. Aucun chant ne résonne de la crainte du viol. Pourtant, c'est de cette expérience-là dont je parle. Cette sensation de dénaturer le mot par le lieu par le mot. Agoraphobie, crainte exagérée des chants. Ça n'existe pas. Pourtant, à la lueur d'un écho, l'histoire que ces deux mots me racontent est celle commune de la domestication, la privatisation et l'exploitation. Fermez les yeux. Tentez d'apprécier l'absence de mes congénères et la rencontre avec tout ce qui ne fait pas homme dans ce tertre grouillant de vie. Me rompre le cou en offrant ma face au soleil et ses premières tiédeurs dissimulées dans le vent d'ouest. Plaisir charnel, presque indécent. L'intensité déconcertante avec laquelle mon corps emmagasine la chaleur et s'en repaît m'effraie. C'est trop facile. Comme si une chose si bonne ne pouvait être si simple, si accessible. Indécence d'une sieste au soleil, à l'image de la masturbation ou de l'écriture. C'est égal à portée de main et le sentiment de culpabilité qui ombrage toute forme de jouissance. »